Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au forum du studio Kalangou. Les programmes du studio Kalangou, c'est un rappel, sont diffusés par 38 radios partenaires dans toutes les 8 régions du Niger. Dans cette région de Dosso, vous suivrez chaque jour nos programmes sur la radio Phare à FM 92 MHz à Dosso, à Doganduchi sur la radio Dalol FM 92.8 MHz, à Gaya sur la radio Phare à FM 90.3 MHz et à Birningaure sur la radio Marhaba FM 95.1 MHz. Aujourd'hui, le forum du studio Kalangou a pour thème la gestion des conseils municipaux et l'apport de la chefferie dans la bonne marche des municipalités. La prise en compte de la chefferie traditionnelle dans l'organisation administrative et territoriale est une des spécificités du système administratif nigérien. En effet, l'apport des sultans, des chefs de canton et de groupement dans la gestion des conseils municipaux est inestimable. Cette conciliation de la décentralisation et du pouvoir local a permis dans plusieurs villes du Niger de faire des collectivités territoriales des institutions démocratiques fortes, capables de contribuer à la consolidation de l'unité nationale, au développement local durable axé sur la réduction de la pauvreté et l'accès aux services sociaux de base dans le respect des principes de la bonne gouvernance. La région de Dosso ne fait pas exception à cette démarche. C'est dans cette optique que le studio Kalangou a initié ce forum en vue de mieux cerner comment le chef traditionnel est mis à contribution dans la gestion des municipalités. Pour débattre de cette question, nous avons invité dans les locaux du conseil régional de Dosso.
Je suis le sultan Maïdanda Seydou Djerbakoy. Je suis pharmacien de métier. J'ai 96 ans. Je suis expert de l'OMS.
Je me nomme Munkel Hima. Donc, je suis le président du conseil régional de Dosso depuis donc, le 27 juin 2011.
Merci, je m'appelle Idé Hassan, je suis le coordinateur régional de la société civile de Dosso.
Pour conduire les échanges, je suis Balkis Amidou. Merci d'avoir accepté l'invitation du studio Kalangou. Nous allons revenir dans ce studio pour donner la parole à Monsieur le Président du Conseil Régional de Dosso, Mukaila Hima, pour nous expliquer ce qu'est un Conseil Régional.
Je vous remercie pour l'opportunité que vous offrez pour parler donc de notre institution. Avant donc, n'est-ce pas, de répondre à votre question, je me dois le devoir de faire une petite présentation de notre institution. Comme je viens de le dire, le conseil régional, nous avons été installés donc le 27 juin 2011. Nous sommes au nombre de 41 conseillers élus au suffrage universel. Il y a donc les 8 chefs traditionnels qui sont donc membres de droit, soit un cinquième, donc, n'est-ce pas, des 41 élus, et l'ensemble des députés donc de la région. Alors, l'exécutif, nous sommes au nombre de 3. Il y a les 2 vice-présidents et moi-même. Et notre conseil aussi est composé de 6 commissions spécialisées qui, donc, n'est-ce pas, doivent agir dans le sens donc, du développement. Parce qu'il faudrait le dire que le mobile donc, du conseil régional, c'est vraiment le développement de la région dans son ensemble. Au passage, je dois aussi vous signaler que notre conseil aussi est composé de 6 femmes. Il y a 6 femmes aussi, tous partis politiques confondus, qui jouent pleinement, donc, n'est-ce pas, leur rôle au même titre que, donc, n'est-ce pas, les hommes.
Puisque vous parlez de rôle, quel est le rôle du conseil régional?
Effectivement, le rôle du conseil régional, c'est de promouvoir le développement de la région, développement socio-économique, culturel, en tout cas le développement de la région dans son ensemble. Voilà donc le rôle qui est dévolu, donc, n'est-ce pas, au conseil régional.
Et quelles sont vos attributions?
Nos attributions, j'ai pu le dire que nous avons donc le devoir donc, de réfléchir sur tout ce qui puisse apporter donc un plus au développement de la région. En ce sens que, voyez-vous, nos commissions, n'est-ce pas, travaillent tous dans l'objectif, donc, n'est-ce pas, dans l'optique d'atteindre le développement. Vous venez de nous dire quelles sont nos
attributions.
Les attributions, oui, c'est vraiment promouvoir le développement de la région. C'est ça vraiment nos attributions principales. Le tout se résume au développement. Maintenant, le développement là, que ce soit au niveau donc, n'est-ce pas, social, culturel, éducatif, en tout cas, c'est le développement de la région dans son ensemble.
Pourquoi la chefferie traditionnelle à travers les sultans, les chefs de canton et de groupement participent à la composition du conseil régional en tant que qualité de membre de droit avec voix consultative?
Merci. Vous savez, nos chefs, nous avons 19, du sultan au chef de groupement en passant par le chef de canton. Alors, ils sont donc membres du droit du conseil et ils participent aux sessions. Ils sont assidus, ils vont en mission tout comme les conseillers élus. Et vous savez, aussi bien que nous, ils sont en contact permanent avec les populations. Donc, ils sont aussi avertis des problèmes, donc, n'est-ce pas, de population. Voilà pourquoi, donc, n'est-ce pas, nous pensons qu'on doit nécessairement toujours composer avec eux. C'est des vrais acteurs du développement. Parce qu'ils sont, tout comme nous, comme je viens de le dire, en contact avec les populations. Et en cas de problème, nous faisons appel à eux et très facilement, ils viennent à notre secours pour débloquer la situation.
Que pensez-vous de cette conciliation de la démocratie au pouvoir local au Niger?
Oui, je pense que l'un dans l'autre, c'est toujours dans l'intérêt des populations. Nos pouvoirs locaux agissent vraiment dans l'intérêt supérieur de nos populations. La démocratie aussi amène donc ces dernières-là, ces populations, à prendre leur destinée en main et donc à les responsabiliser davantage. Donc les pouvoirs locaux canalisent les démarches de ces populations qui contribuent donc, n'est-ce pas, vont dans le même sens que donc le développement. Donc c'est tout à fait normal que l'un et l'autre soient complémentaires pour le bon déroulement, donc, n'est-ce pas, des actions au niveau donc, de nos populations.
Merci, Monsieur le Président du Conseil régional. Nous allons revenir vers vous, le temps de donner la parole au sultan de Douro, Seydou Jarmakoy. Merci d'avoir accepté l'invitation du studio Kalangou. Nous sommes honorés à travers votre présence. Que pensez-vous de l'implication de la chefferie dans la gestion des collectivités territoriales?
Je vous remercie. J'ai beaucoup écouté plusieurs fois les émissions de Kalangou. J'en suis fier et flatté. Je vous félicite de votre contribution pour la paix et ce que nous recherchons avant tout, l'unité nationale, la compréhension entre les Nigériens, leur vision sur le développement et la vision également pour devenir réellement un pays souverain, indépendant économiquement, socialement et politiquement. Je vous remercie infiniment. Merci de votre question. Je pense que c'est tout à fait naturel, étant donné que les communautés sont incluses et constituent le vrai pays. Nous qui sommes en contact permanent avec les chefs de village, les chefs de faction, etc., nous sommes à même de comprendre et de toucher du doigt presque quotidiennement leurs problèmes. Et on en fait notre et on se réfère à l'autorité administrative et régionale. C'est surtout cela le rôle du chef. Mais pour ce faire, je vais me référer, si vous permettez, à la loi qui définit cette attribution et qui définit très bien d'ailleurs les communautés. D'abord, nous sommes régis par la Constitution et la loi numéro 2015-01. Vous pouvez vous référer. Et c'est surtout ces textes qui définissent le rôle de la chefferie coutumière. Pour ce faire, je vais me permettre de vous dire que, selon les cas, les communautés coutumières sont composées de fractions, de quartiers, de villages, de tribus de chefferies particulières, de groupements, de secteurs, de cantons, de sultans, de provinces. Voyez-vous, toutes les franges sont respectées et sont représentées par la chefferie traditionnelle. On peut citer presque 230 chefs de cantons et provinces. Et les chefs de village, il faut compter certainement de 16 à 20 000 chefs de village qui sont en rapport continu avec les chefs de quartier, les chefs de fraction, comme je viens de le dire. Et vraiment, tout ce qui concerne la vie de la nation ne leur échappe pas et ils nous soumettent ce que nous permettons, nous, en tant que conseillers au Conseil régional et dans d'autres institutions, d'apporter leur voix et de défendre leurs intérêts. Nous sommes les intermédiaires entre, si vous voulez, le peuple et le pouvoir. Le pouvoir étant l'administration et les conseils régionaux, les maires, etc.
Quel est l'apport de la chefferie traditionnelle à la bonne marche des municipalités et de la mobilisation des fonds?
Il est dit dans la loi que les chefs de village sont tenus de lever l'impôt. Et les chefs de canton, la région supérieure, aident les chefs de village à ce travail qui est extrêmement important parce que c'est sur quoi nous, en tout cas, nous insistons surtout. Il faut que la population se rende compte que l'État ne peut pas tout faire, ni les partenaires sociaux et économiques. Donc il faut que la participation dans le développement du pays vienne également par le peuple lui-même. Ceci est naturel et il faut que nous ne soyons pas à attendre que l'école soit forcément construite par l'État, que les services sanitaires soient les routes, etc. Donc vraiment, il faut que notre population comprenne qu'ils ont le devoir d'investir, ils ont le devoir de participer au fonctionnement, à la création et à la contribution de l'État. C'est ça, surtout le rôle des chefs de canton, etc., pour prévenir et essayer de faire comprendre à cette population que leurs champs qui sont là, les engrais qui sont là, sont achetés ailleurs. Pour le moment, ils ne sont pas à même de les fabriquer, donc il faut payer les infrastructures. Nous sommes là autour de studio. C'est certaines fois que ce n'est pas les Nigériens qui ont fait ce studio, donc vous avez dû ce studio l'acheter. Il faut donc que nous participions à l'achat. Il ne faut pas tout laisser à l'État. C'est extrêmement important, cette notion.
Quelle est la répartition des compétences entre les collectivités territoriales et les chefs dans la mobilisation des fonds des municipalités?
Précisément, notre rôle, c'est sur la sensibilisation. Actuellement, nous sommes en démocratie totale. Il n'est pas question de forcer, mais si on arrive à faire comprendre à la population la nécessité absolue de se prendre en charge, de prendre leur santé en charge, leur éducation en charge, l'éducation des enfants, c'est déjà quelque chose. Et il faut passer par là. Actuellement, on n'est plus à l'époque où on oblige, pour quoi que ce soit obligatoire. De toute façon, la force n'est plus de mode. Il faut donc expliquer, surtout et faire comprendre la participation de tous.
Et est-ce qu'il y a des différends qui surgissent entre les différents organes locaux et la chefferie dans le processus de la mobilisation des fonds? Si oui, comment vous arrivez à surmonter ces différends?
C'est une très bonne question. Ici, en toute franchise, je ne parle pas d'ailleurs, en tout cas ici, ce que personnellement moi je vis, c'est qu'on vit en parfaite symbiose avec le pouvoir. Je veux parler de l'administration et je veux parler aussi des conseils élus. On fait partie, nous sommes membres de droit, comme les députés des conseils régionaux. Nous arrivons, étant donné que nous sommes tous impliqués à la même tâche, le président du conseil régional et le chef coutumier ont tous le devoir de faire le développement du pays. Donc, si ceci est compris entre nous, il ne doit pas avoir de difficultés. Bien au contraire, c'est un apport, on s'enrichit mutuellement.
Nous allons revenir vers vous, le temps de donner la parole à l'acteur de la société civile.
Ida Hassan,
merci d'avoir accepté l'invitation du studio Kalangou.
Merci, madame.
Qu'est-ce que la commune attend des citoyens?
La commune attend beaucoup de choses des citoyens, mais plus précisément d'un certain nombre de domaines, tels que la mobilisation des ressources pour faire fonctionner ces collectivités et leur engagement à l'accomplissement des œuvres d'intérêt commun. Vraiment, donc, c'est ça, les conseils attendent des populations. Vraiment, une citoyenneté, la participation des citoyens au développement de la collectivité, de la commune. Voilà donc ce que le conseil attend le plus des citoyens.
Quelles sont les actions menées par votre structure pour amener les citoyens à s'acquitter de leurs droits civils?
Partons vers les populations, les citoyens, en les sensibilisant. Une nouvelle collectivité créée, c'est le leur. Ils ont la responsabilité d'œuvrer pour que ces ces conseils, ces communes-là marchent correctement. Et que pour que ces communes marchent, pour que ce conseil marche, il faut leur plein engagement. Il faut qu'ils s'engagent, qu'ils s'acquittent de tout ce qui est du droit qu'ils doivent à ce conseil-là. Parce que sans leur participation, sans leur engagement, surtout sur le plan ressources, les collectivités-là ne peuvent pas marcher comme ça se doit. Et donc nous partons de dire que vraiment la population doit œuvrer aux côtés du conseil pour que le conseil fonctionne. Maintenant c'est l'heure de la décentralisation. Un conseil qui ne marche pas, une commune qui ne marche pas, c'est la population est laissée derrière. Donc c'est une obligation pour notre population donc d'œuvrer aux côtés de nos conseils pour qu'on évolue, on va vers le développement.
Et nous savons que l'incivisme fiscal est une réalité au Niger. Au niveau de votre structure, comment est-ce que vous agissez pour amener les populations à payer leurs taxes et impôts? Et
ça, c'est un des points faibles des Nigériens, l'incivisme fiscal. Mais quand même, nous ne restons pas les bras croisés à travers des partenaires. Nous avons mené plusieurs campagnes de sensibilisation. On a été dans presque toutes les communes ici du département du Dosso pour sensibiliser la population sur l'incivisme fiscal. Payer les impôts, les taxes, c'est un devoir, c'est une obligation. Et vraiment, on a été, les populations dans les villages, on s'est entretenu avec les conseillers. Ensuite, les populations, on part étape par étape, on s'arrête, on réunit les gens, donc on leur montre l'importance de ces ressources-là. Le nerf de la guerre, c'est les ressources pour le conseil. Et il faut que les populations payent, versent ces ressources-là au conseil pour que ces conseils puissent pouvoir travailler, pour pouvoir accomplir correctement leur travail. Et vraiment, nous avons fait beaucoup de choses dans ce sens-là. Nous avons mené plusieurs campagnes de sensibilisation.
Et quel impact ces sensibilisations ont apporté sur les populations?
Bien, en tout cas, bon, ils ont compris l'importance des impôts, l'importance des taxes, l'importance de s'acquitter de ce devoir, surtout fiscaux envers les collectivités.
Pourquoi dit-on que le citoyen est l'âme et le moteur de la commune ou des collectivités territoriales?
L'âme et le moteur, bon, oui. C'est vrai parce que, je l'ai dit tout à l'heure dans ma première intervention, ils sont au cœur du développement du conseil. Parce que s'ils ne participent pas, si à travers leurs actes, leurs comportements, ils ne participent pas aux attentes, ou bien, ils ne participent pas aux activités de développement, le conseil-là ne vont pas prospérer. Et qu'est-ce que c'est que les activités de développement? C'est s'acquitter complètement de ses devoirs, impôts, taxes, tout ce qui permet au conseil de prospérer. Il faut remettre ça au conseil, aux conseillers, pour que le développement à la base soit une réalité.
Et comment un citoyen peut-il participer au contrôle de l'action des élus?
Tous les citoyens peuvent, conseillés par nous d'abord, la société civile, et même les autres citoyens, nous participons. À travers une méthode d'approche, on va vers les conseillers, que ce soit au niveau du conseil régional ou bien au niveau des conseils municipaux. De temps en temps, on va vers les maires. Qu'est-ce qui se passe? Souvent, de telles choses ici, là, ça ne va pas. Il faut changer. Ou bien, qu'est-ce que vous faites de telle activité, ou bien de telle œuvre, ou bien de tel fonds, ou bien de telles ressources que vous percevez? Comment est-ce que vous les utilisez? Ou bien, leur destination, là, ce n'est pas ça. Des ressources dans tel domaine n'est pas correct. Il faut agir. De cette manière, nous, d'abord, en tant que structure de la société civile, les citoyens ordinaires, eux aussi, ils peuvent approcher les élus locaux pour leur transmettre donc leurs vœux. Voilà, nous voulons que les œuvres de développement soient orientées, soient canalisées vers tel domaine.
Est-ce qu'il y a des différends qui surgissent entre les acteurs de la société civile et les organes locaux dans le cadre du contrôle citoyen de l'action publique?
Ici, Dieu merci, les conseillers, les maires ne sont jamais opposés à nos critiques, mais la critique étant ce qu'elle est, vraiment, ils acceptent, mais vraiment, ça va, malgré le goût amer.
Oui. Vous voulez ajouter quelque chose?
Oui, j'aime répondre à la question là que vous avez posée.
Le citoyen est l'âme et le moteur.
Effectivement, le citoyen l'est parce qu'il est l'âme, il faudrait que la collectivité existe. Le moteur, il faudrait que la collectivité fonctionne. À ce titre, nous autres, nous avons, n'est-ce pas, comme devoir d'entretenir le moteur. Nous, les différents acteurs, de faire donc, n'est-ce pas, exister donc, n'est-ce pas, l'âme-là, à travers donc des sensibilisations. C'est la sensibilisation qui provient de nous, qui va faire donc exister donc, n'est-ce pas, cette collectivité. Je vous donne par exemple un exemple. Avec les partenaires, nous avons un financement sur la bonne gouvernance, le pacte, le programme d'appui aux collectivités territoriales. Il y avait une commune qui, l'année précédente, elle a fait une recette de 300 000. Mais avec les actions de sensibilisation à travers donc le volet gouvernance, n'est-ce pas, local, la commune est passée de 300 000 à 20 millions. Voyez-vous, c'est grâce à l'action donc de ces différents acteurs, de par donc, n'est-ce pas, la sensibilisation, qu'on est arrivé à ce résultat. Donc on a vraiment très bien entretenu ce moteur-là pour que ça puisse exister, l'âme puisse exister.
Merci Monsieur le Président. Merci. Du Conseil Régional. Nous allons observer une petite pause avant de continuer ce forum. Nous allons revenir dans ce studio pour donner encore une fois de plus la parole à Monsieur le Président du Conseil Régional. Mukai Lahima, et quel est le processus de la mobilisation des fonds?
Merci. Les collectivités, donc, n'est-ce pas, sont à deux niveaux. D'abord, pour les communes, les mairies, donc, leur recette, c'est vraiment la traditionnelle recette au niveau des marchés. Il y a encore les taxes et autres donc, qui leur permettent vraiment de remplir leur caisse. Alors, mais nous, au niveau du Conseil régional, d'abord, le principal partenaire, c'est d'abord l'État. C'est l'État donc, qui nous donne. Il y a deux fonds, le fonds de péréquation pour l'investissement et le fonds FAD pour donc, n'est-ce pas, le fonctionnement. Et à part ça, nous avons aussi quelques avec nos villas, nous. Réalisons des recettes, oui, et sur les impôts prélevés aussi, on nous retraite, n'est-ce pas, une partie. Et en plus, et enfin, il y a ce que nous recevons donc des partenaires. Les partenaires aussi, donc, n'est-ce pas, mettent des fonds à notre disposition, des fonds qui sont destinés directement donc au développement. Ces fonds-là, nous les répartissons donc au niveau des communes et à ce niveau, le Conseil régional va jouer simplement donc le rôle, n'est-ce pas, d'arbitre pour que ces fonds-là soient vraiment, donc, n'est-ce pas, utilisés à bon escient.
C'est-à-dire que c'est les communes qui s'occupent de la gestion de ces fonds mobilisés?
Oui, c'est les communes qui s'occupent donc de la gestion de ces fonds. Nous allons jouer seulement le rôle d'arbitre. Quand une commune, donc, n'est-ce pas, trébuche, on lui dit, écoute, redresse-toi pour que, donc, n'est-ce pas, vous ne soyez pas laissé à la traîne ou bien pour que vous ne soyez pas sanctionné.
Et à quelle fin sont utilisés les fonds des collectivités territoriales?
Oui, surtout, donc, n'est-ce pas, pour des infrastructures. Je vous dis, par exemple, nous, au niveau du Conseil régional, par exemple, sur fonds propres, nous avons fait plusieurs réalisations. Nous avons construit plus de 11 classes. Nous avons fait des réservoirs d'eau au niveau du centre mère et enfants. Nous avons construit des bâtiments au niveau toujours du centre mère et enfants. Et avec l'argent des partenaires, regardez donc là où nous avons fait beaucoup de réalisations. Quand vous prenez, par exemple, au niveau donc de l'agriculture, il y a eu 3 aménagements hydro-agricoles, Bumba, Gatawani et Lokoko. Il y a aussi donc, n'est-ce pas, le traitement de certains points critiques sur les voies de communication, parce que c'est très important. Il faudrait que les populations circulent pour, n'est-ce pas, qu'il ait vraiment développement. Vraiment, c'est surtout dans le cadre donc de la réalisation des infrastructures que nous injections, donc, n'est-ce pas, ce que nous arrivons à avoir.
Est-ce que les chefs et les populations locales sont associés à la gestion des fonds des municipalités? Si oui, comment?
Oui, ils sont associés parce que, comme j'ai eu à le dire, ils sont membres, donc, n'est-ce pas, de nos conseils. Et à ce titre, ils participent au développement. Nous les consultons. Aujourd'hui, si on veut faire une réalisation ou quelque chose comme ça, c'est vraiment des acteurs qui ne sont pas du tout laissés à la traîne. Ils sont associés.
C'est des acteurs clés?
C'est des acteurs clés. C'est des acteurs clés. Parce que, en plus de quiconque, c'est eux qui ont la maîtrise, donc, n'est-ce pas? Ils connaissent mieux les problèmes sociaux, surtout sociaux de la région. Aujourd'hui, quand vous voulez, donc, ça nous permettrait vraiment d'éviter certains conflits inutiles.
Oui. Est-ce que le chef et les populations ont la capacité de s'opposer à la gestion des fonds quand ils ne sont pas utilisés à la bonne marche des collectivités?
Oui, vous savez, la population est représentée. Ils ont la capacité parce que les chefs sont là. Ils participent au conseil. Donc c'est vraiment la région en miniature qui est là. Toute la population est représentée à travers, toutes les couches sont représentées. Les chefs sont là. Et même nous, nous représentons la population. Nous pensons que si on prend une décision, un conseiller de l'autre côté peut dire, écoutez, ça ne va pas, je ne suis pas d'accord. Donc à travers nous élus et les membres de droit, les populations ont la capacité de s'opposer parce que nous les représentons. Voilà.
Merci, monsieur le président du conseil régional. Nous allons donner la parole au sultan de Dosso. Comment les chefs traditionnels ont réussi à contrôler le processus de décentralisation et de continuer ainsi à jouer un rôle de premier plan dans la vie politique locale, notamment la collecte et la gestion des fonds des municipalités?
Avant de répondre à votre question, j'aimerais revenir, ma fonction première l'exige, sur le développement, ce que vous appelez être le moteur et
l'âme.
Je parle du moteur. Il est clair parfois qu'on peut difficilement parler d'un pays sans santé, sans hygiène, sans salubrité, sans assainissement. C'est extrêmement important. Et ceci dépend essentiellement de la population. Nous avons actuellement, vous, nous, tout le monde, le problème de l'application de la politique de population, la démographie galopante, que nous vivons intérieurement et que nous savons négatif au point de vue développement. C'est extrêmement important. Il faut que la population sache que, je m'excuse, bon, quand je suis revenu ici, après plusieurs périples, il y a en 60, nous étions 3 millions et quelques. Maintenant, nous sommes 20 millions pour le même espace. Le même fonctionnement, enfin, l'économie montante, vrai, mais en tout cas, si on continue ainsi, on sera dans quelques années aussi nombreux que les Nigérians, avec un développement économique un peu moindre. Je ne sous-estime pas l'effort que nous faisons pour essayer d'atteindre une bonne économie qui puisse nous permettre de vivre mieux, d'avoir le bien-être et le bien-vivre, mais en tout cas, il est quand même important que nous passions à ce problème de développement galopant.
Vous voulez dire que la population
absolument,
croit plus
absolument,
que les ressources
absolument.
Naturelles
disponibles? Et vous le savez, puisque en fait, c'est vous qui avez soulevé la question, vous, les informateurs, c'est vous. Vous savez que le Niger, tout de même, pays où la femme a une...
Le taux de fécondité est
le plus élevé. Et la population, il faut qu'ils comprennent. Ce n'est pas une exigence, c'est une nécessité. Je m'excuse de revenir, ici en Germain, on disait avant, wahai, 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 où est-ce qu'on va les mettre? Dans les tiroirs?
À votre avis, comment faire pour maîtriser cette population galopante?
Ce que nous faisons, ce que nous continuons de faire tous les trois, c'est-à-dire la stabilisation. Leur faire comprendre que de toute façon, vous aurez un champ, une, deux femmes et quatre enfants. Si vous doublez tout ceci en cinq ans, le champ ne s'étend pas, la production va peut-être être stationnaire. Comment est-ce que vous allez faire pour concrètement faire vivre votre famille, votre petite famille d'abord avant le village, la tribu, avant le pays? Donc c'est une notion très simple qui sont ce type d'être entendu et écouté par tous. Il faut le répéter et être continuellement dessus. Je ne sais pas, vous êtes certainement mieux outillé que moi dans ce sens-là pour essayer de voir.
Il y a la question de dividendes démographiques.
Dividendes démographiques.
Est-ce à dire que le fait d'étendre la représentation de la chefferie aux chefs de quartier et de tribu permet aussi la bonne marche de la commune et même de lutter contre l'incivisme fiscal?
Bon, cette question, je vais la poser au ministre du Conseil.
Monsieur le Président, tout à l'heure. Je vous renvoie la question.
Je pense que si ça permet d'améliorer, donc, n'est-ce pas, le recouvrement, ce serait une très bonne chose. Mais au cas où ce serait des budgétivores.
Et nous allons revenir vers vous.
Seydou Germain Koué.
Est-ce que le chef a le pouvoir d'interpeller les élus locaux au cas où les fonds sont mal gérés?
Bon, interpeller, c'est beaucoup dire. Mais je crois que mon frère, qu'il n'y a pas mieux que le dialogue permanent au sein des conseils et dans nos discussions, dans nos contacts permanents que nous avons avec les uns et les autres. Nous sommes une famille, qu'on le veuille ou non. Il y a les responsabilités qui sont diverses, certes, oui, mais je dis et je répète que le président ici, qu'il le veuille ou non, c'est mon cousin. Et indépendamment de son bureau, on est ensemble, on discute. On n'est pas toujours d'accord dans notre session première. Mais en tout cas, cette collaboration, ce contact humain est décisif. Et par là, on réussit beaucoup de choses. Il faut le conseiller. Les partis politiques, je crois qu'on voit qu'il faut quand même qu'ils se disent que, quelle que soit sa vision politique, j'estime que c'est une mauvaise compréhension de la politique. Il y a actuellement des frères qui sont en brouille parce qu'ils sont des partis différents et que cela doit être corrigé. Je le pense sincèrement. J'ai 96 ans, j'ai fait beaucoup de politique, moi aussi, avant, mais je me suis rendu compte de mes erreurs, je corrige et je conseille, je continue à demander aux uns, aux autres, surtout aux jeunes, de nous emboîter le pas. Merci.
Et qu'est-ce que vous, en tant que chefferie traditionnelle, vous attendez des collectivités pour une bonne collaboration et pour que la population puisse vraiment jouir des fruits de cette collaboration?
La participation effective dans les conseils et dans les commissions. On fait partie des commissions. Donc ce qui est arrêté par la population, c'est nous qui la sentons, on la porte à la commission. Et si la commission n'est pas d'accord, on la porte au conseil. Qu'on le veuille ou non, cette implication directe, on n'est pas séparés les uns des autres. Nous sommes communs, on constitue une unité globale pour le développement du pays.
Merci beaucoup. Nous allons donner la parole à Ida Hassan, l'acteur de la société civile. Le citoyen, en s'acquittant de son devoir envers sa commune, attend de lui une bonne gestion de son cadre de vie, équipement collectif, services publics et administratifs, habitat, etc., la mise en valeur du terroir et la création d'un environnement favorable au développement économique et social. Comment les citoyens procèdent-ils pour amener les collectivités à agir en leur faveur?
Merci madame. Donc à travers le contrôle citoyen, que les populations amènent donc, les conseils à agir à leur faveur. Donc s'ils ont le regard sur ce que font les élus locaux, chaque jour ils ont les yeux sur les élus locaux à travers ce comportement. Les conseillers, les élus locaux seront obligés de bien orienter les ressources là où les populations les attendent. Vraiment, chez nous ici, plus précisément dans notre conseil régional, vraiment ça va. Ils ont peur de nous, mais ils ont peur de la population. Vraiment ici, quand même, vraiment ici, notre conseil régional, ça va. On a dit qu'ils sont en train de faire beaucoup de choses. Il a commencé à citer ce qu'ils ont fait. Ils ont fait beaucoup de choses et de la manière dont les fonds sont gérés ici, mais la chose publique est gérée vraiment. On a vu des traces importantes. Et peut-être que c'est parce que le conseil voit que la population de la région a les yeux braqués sur eux, sur lui, ce qu'il est en train de faire. Les investissements qu'ils sont en train de faire, la population les observe, ils sont en train d'observer, ils sont en train de dire, de parler. Et je crois que c'est les dires, les paroles de la population qui sont tenues en compte par les élus locaux. Et vraiment, ici, dans la région de Dosso, pour le conseil régional qui est devant nous, sous nos yeux, vraiment, ils tiennent compte donc à travers les observations, les interventions, les critiques, les ressources qui leur parviennent sont bien utilisées et ils les mettent à la disposition de la population. Comme l'a dit, nous avons aussi un enseignant, un professeur ici dans notre CES. Ils ont construit un complexe de 4 classes. Les œuvres, les activités, les tâches entreprises sont nombreuses. Et tout ça là parce qu'on a un regard sur eux. Et on les sollicite, ils sont sollicités, ils sont interpellés et vraiment ils agissent dans le vœu de la population.
Une bonne gestion de cadre de vie signifie également une gestion transparente.
Transparente.
Comment vous faites pour qu'ils puissent adopter des budgets participatifs et que la transparence soit de mise dans la gestion?
Bien, le budget participatif maintenant c'est à la mode. Nous sommes outillés souvent, nous acteurs de la société civile, de temps à autre, on échange avec soit les conseillers de l'élaboration du budget, de l'application, des différentes orientations. Et même au conseil, ils nous invitent, nous siégeons dans des comités, on travaille beaucoup avec eux, nous sommes permanemment avec eux. Par exemple, pour le schéma de l'aménagement foncier, tout le processus, nous l'avons fait ensemble. Nous avons un représentant qui a siégé ici pendant plus d'un an. On travaille ensemble, donc vraiment partout où ils vont, on est ensemble. Donc cela nous a permis quand même de nous impliquer, de savoir ce qu'ils font et de les aider à bien orienter les fonds et à créer du cadre de vie important à la population.
Et on atteint également des communes qu'elle a tenues les disparités sociales et donne aux pauvres la possibilité aussi de sortir de leur pauvreté.
Mm-hmm.
Et dans ce sens, qu'est-ce qui est fait ?
Dans la région, il y a beaucoup de choses qui se font. Beaucoup de choses qui se font, surtout pour les populations vulnérables. Il y a des aides qui se font, il y a des infrastructures souvent qu'on crée et des appuis sous diverses formes qui sont apportées à ces populations-là. Par exemple, maintenant, nous sommes à la période du Soudou. Chaque fois, il y a les conseils. Et dans chaque commune, le maire, avec ses différents comités, bien un comité, crée un comité pour faire des ciblages. Et à travers ces ciblages-là, on va cibler les populations vulnérables pour pouvoir leur apporter de l'aide, pour pouvoir franchir cette période du Soudou qui souvent s'avère très difficile pour les populations.
Nous allons observer une petite pause avant de conclure ce forum. Nous sommes pratiquement à la fin de ce forum. Nous allons procéder à un tour de table. Quelles sont vos suggestions et recommandations pour une meilleure gestion des conseils municipaux à Dosso et une collaboration active avec la chefferie traditionnelle pour la bonne marche des collectivités? Nous allons commencer par vous.
Merci. Tout à l'heure, je disais que vraiment, ici, le conseil régional, nous travaillons en parfaite harmonie. Tout à l'heure, j'ai eu un langage de langage en disant que c'est mon cousin, en fait. Hein, il est conseiller, je suis chef, mais on est parents. C'est un peu ce que je voulais dire, mais vraiment, ce n'est pas une précision particulière et spécifier l'entité. Non, on collabore en tant que Nigérien, attelé à une seule tâche qui est le développement du pays. Nous souhaitons et nous voulons que ce pays soit au même titre que la Corée du Nord, que nous puissions dire non quand nous voulons et oui quand nous voulons, et ne pas attendre qu'on nous donne ce qu'on veut bien nous donner. Voilà des gens qui sont devenus indépendants après nous. Actuellement, ils sont dans la position de tête. Si on peut comprendre ça à la population, ils peuvent se poser des questions, je crois. Pourquoi eux et pas nous? Parce qu'ils ont fait ce qu'on n'a pas fait. Mais si on prend l'engagement de pouvoir essayer de les imiter, d'inspirer. Actuellement, vraiment, nous avons des chances et de bonnes chances pour accéder à ce que nous souhaitons. Avec maintenant le numérique, je crois qu'on peut avancer assez rapidement et plus rapidement qu'eux. C'est un vœu. En tout cas, il faut que nos jeunes, tout à l'heure, je vous disais, j'ai 96 ans, 96, donc nos jeunes prennent conscience par le fait qu'ils doivent aller vite et très vite pour attraper tout le monde. Il n'est pas possible de rester à la traîne. Donc, Kalangou, je crois, œuvre dans ce sens, je crois. Et nous souhaitons bonne chance.
Monsieur le Président du Conseil, qu'est-ce que vous allez ajouter?
Oui, effectivement, c'est dans le même sens. Je dirais tout simplement, en tout cas, moi, l'appel, c'est un appel que je vais lancer. Je lance un appel à tout le monde pour que chacun apporte sa pierre à la construction donc de l'édifice. Et pour ce faire, il faudrait donc cultiver la culture de la paix. Et la paix là, comme le dirait l'autre, ce n'est pas seulement le silence des armes. La paix, ce n'est pas seulement le silence. On a tendance à comprendre que la paix, c'est quand il n'y a pas le bruit des armes. C'est avant tout la justice, l'équité et la solidarité. J'insisterai sur l'aspect solidarité d'abord, parce que s'il y a cette solidarité, il va sans dire que nous allons donc prendre l'autre comme un autre nous-mêmes. Et en ce moment, nous allons former un tout, un seul homme. Et en ce moment, je sais que aucun homme ne saurait se rebeller contre lui-même. D'où donc, dès qu'il y a la paix, il y a la compréhension mutuelle des uns et des autres, nous allons déboucher sur un développement harmonieux de notre région et au-delà de l'ensemble du pays.
Merci. Voilà. Ida Hassan.
Merci madame. Notre appel, c'est l'idéal. Nous souhaiterons la chefferie traditionnelle et le conseil œuvre ensemble, travaille en étroite collaboration pour œuvrer au bonheur, au bien-être de notre population. Bien souvent, il arrive des accros, des incompréhensions entre bon, les acteurs, je veux dire entre certains chefs et certains exécutifs du conseil, de commune. Et vraiment, au-delà de tout cela, vraiment, l'idéal serait de se mettre ensemble pour mobiliser les ressources nécessaires pour que les différents conseils de notre région puissent avancer, puissent se développer pour atteindre l'idéal, comme l'a dit l'honorable, pour qu'on attende vers la Corée. Vraiment, c'est ça l'idéal. Vraiment, on devrait œuvrer pour que nos populations aspirent au développement, pour qu'ils atteignent le développement auquel ils aspirent.
Mesdames et messieurs, nous sommes au terme du forum du studio Kalangou qui a porté sur la gestion des conseils municipaux et l'apport de la chefferie traditionnelle dans la bonne marche des municipalités. Après échange, nous pouvons dire sans risque de nous tromper que l'apport de la chefferie traditionnelle est inestimable dans la gestion des communes. En ce sens que les chefs servent d'intermédiaires entre les organes locaux et les populations. Cette collaboration a permis aux populations d'être au cœur des activités des collectivités territoriales, mais également de concilier la décentralisation et le pouvoir local afin de permettre à chaque citoyen d'apporter sa pierre à l'édifice dans la mobilisation et la gestion des fonds des collectivités.